L'après-midi, pendant quelques minutes que j'avais disponibles, j'ai regardé un petit peu d'un match de tennis. Autrefois, j'ai joué au tennis et il y avait des années où j'étais passionnée par. Je regardais les matchs de Roland Garros quand j'ai pu. Et il m'est arrivé même d'y aller au Roland Garros. Pas très souvent, mais quand j'ai pu avoir un billet. Et donc cet après-midi, je regardais ça. Et ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le tennis. Donc, c'était presque comme si je regardais une première fois. Pas vraiment, parce que je connais les jeux, etc. Mais c'était nouveau. Et une des choses qui m'a frappée, c'était que j'avais l'impression que quand il y avait une certaine façon qu'un joueur pouvait jouer, où c'était presque sûr qu'il allait rater, qu'il allait que soit le balle allait être dehors, ou ça allait être, ça n'allait pas faire ce qu'il voulait que ça fasse. Ça pouvait tomber dans le filet ou aller trop, aller exactement où l'autre joueur le voulait, ou faciliter les tâches de l'autre joueur, il pouvait l'avoir plus vite, plus simple, et il pouvait donner un coup que l'autre donc ne pouvait pas attraper ensuite. Bon. En même temps, je sais que ces joueurs de tennis à ce niveau-là sont presque comme les joueurs d'échecs, parce que tout est organisé. Si je fais ça, il va faire ça, et donc je vais faire ça, et puis il va faire ça, et je peux faire ça. Donc c'est calculé pour construire un point pour gagner. Donc il y a à la fois un effort de faire quelque chose, qui est gagner le point, ou faire déjouer l'autre, soit où il y a cette possibilité où si je fais un certain effort de trop, ça ne va pas du tout faire ce que je veux. Et même le fait de vouloir que ça se passe d'une certaine façon, de construire le point, etc., si le joueur va se figer sur tel ou tel déroulement qu'il essaie d'organiser et attendre, il va être très mal barré parce que il y a toujours de l'imprévisible dans ça. Il y a c'est impossible de prévenir exactement de quelle façon il va frapper le balle, ni exactement comment ce balle et les cordes vont se mettre ensemble avec son effort, avec le vent, la lumière, le terre battue, tout. Donc il y a cet élément d'imprévisible qui fait le jeu en fait. Parce que si on pouvait prévoir tout, ça n'a aucun intérêt. Donc d'une certaine façon, c'est les véritables joueurs dans le sens qu'ils jouent l'inconnu, ils ne savent pas ce qui va arriver. Bien qu'ils essaient de prévoir et organiser, ils se sont entraînés mais des heures et des heures et des heures et des heures, et répéter. Ils se connaissent parfaitement, les plus grands joueurs sur le circuit. Il y en avait un aujourd'hui qui, quant à l'autre, c'est le grand vedette Nadal, c'est déclaré forfait, et un autre joueur qui était questionné a dit ah ben oui, mais on est amis, on se connaît depuis qu'on est tout petit, on joue depuis qu'on est tout petit sur les circuits, et maintenant ces hommes ils ont 30 ans, enfin, après. Mais il y a cet élément d'imprévisibilité. Alors ça m'avait frappé. Je pense que je n'avais jamais vu à ce point-là. Surtout ce que j'avais vu aujourd'hui, c'était que quand c'était raté, et je pouvais presque savoir avant qu'il termine l'enchaînement de son coup que ça allait rater. Il y avait quelque chose de un je ne sais quoi qui était, on dirait en anglais, off. C'était trop ou c'était pas assez, ou c'est comme si son esprit était avancé déjà au prochain coup et donc il ratait. Ou l'autre, où il le donnait d'une façon que l'autre pouvait facilement le renvoyer et le rendre impossible. Bon. Alors, ça m'avait, comme j'ai dit, frappé, je reste dans les mots de tennis, frappé. Et comment ça s'applique, à tout. Ça fait aussi comment dire, ça, en anglais on dit dovetail, ça rejoigne aussi. Mais d'une façon complètement oblique. Hier, il y avait des manifestations, etc., et tout a dégénéré, apparemment. Je n'ai pas été, mais je sais que quand j'ai passé la nation, on ne pouvait pas sortir, on pouvait juste faire la correspondance, le métro était fermé, et après, j'ai su qu'il y avait des frottements entre les manifestants, il y avait des manifestants, enfin, c'est toujours la même chose, les individus cagoulés, qui ont visé les vitres, qui ont cassé. Donc les casseurs. C'est jamais très clair combien de gens il y a qui font ça, ni qui sont ces gens-là. Mais dans les médias, on dit toujours, ah oui, les gens cagoulés qui ont cassé les casseurs. Alors ces manifestations, déjà, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, etc. Hein? Mais.
Comme un match de tennis.
Quoi? Comme un match de tennis. Effectivement. Des deux côtés, il y a les arbitres, il y a des éléments inconnus qui. On ne sait pas ce qui va se passer. S'il pleut, il va arriver quelque chose. S'il ne pleut pas, il y a autre chose. Il y a ces éléments cagoulés qui vont venir, cassés, etc. Mais le fait même qu'il y a ces manifestations parle de quelque chose. C'est une manifestation de quelque chose, justement. Enfin, en anglais, on ne dit pas manifestation, pour on dit démonstration. Mais ça revient au même. C'est une manifestation de quelque chose. Et ce n'est pas ce qu'on pense. Enfin, si, c'est ce qu'on pense, mais on ne voit pas si on suit l'enchaînement de la chose. Si on suit l'enchaînement, en tant que journaliste, je dois étudier les choses, les reportages, etc. Et souvent, ce qui revient, que ce soit en Autriche, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Grèce, différents endroits où il y a ce qui se passe, et c'est plus ou moins la même chose, avec les détails différents, les manifestations sont pour ou contre des choses particulières dans tel ou tel pays, telle ou telle société, mais ce qui revient, c'est souvent, c'est les gens qui se sentent désemparés de ce qui est leur communauté locale, de ce qui est leur vie locale, de ce qui est, ils vont appeler ça leur identité. donc il y a toute cette politique nationaliste contre l'immigration, contre les réfugiés. Aux États-Unis, ça prend la forme de on a pris nos boulots, il faut. Le truc de Trump, c'est Make America Great, c'est-à-dire ramener nos boulots, il faut fabriquer les choses américaines en Amérique, on ne veut pas les étrangers, on va construire un mur et eux ils vont payer pour ça. C'est les gens se sont désemparés de quelque chose d'un chez eux, disons. Et c'est la même chose si on écoute. Tout le monde, c'est ça. En France, c'est... Bon, il y a l'extrême droite, mais il y a aussi les gens qui sont furieux parce que leur boulot, leur droit de social, etc., vont être supprimés ou changés. Quelque chose où ils estiment va les rendre encore plus précaires. Ils se sentent déjà dans une précarité, ça va les rendre encore plus précaires. Et cette... comment dire, cette chez eux ne va plus être. Et tout le monde sent que, avec ce qu'on appelle la globalisation, tout commence à se ressembler. Il y a des gens même qui disent bientôt tout le monde parlera anglais, plus ou moins, et les langues vont disparaître ou être très réduites, les différentes langues. Bon, ça, il va falloir un temps, mais déjà presque n'importe où on va aux États-Unis, dans le monde, tout le monde parle anglais, plus ou moins. J'ai lu un article récemment d'une ville aux États-Unis, dans les montagnes, dans la Caroline du Nord, qui est un coin un peu arriéré, mais pas tant que ça. Et le désespoir de ces gens, leur boulot, les usines, etc., sont partis parce que les choses sont fabriquées en je ne sais pas où, en Chine ou en Vietnam ou je ne sais pas où. Donc ils n'ont pas de boulot. Ou les boulots qu'ils ont, c'est travailler dans les fast-food ou les choses comme ça. Grosso modo, tout le monde, soit le grand problème, c'est l'addiction aux médicaments, les opiates, on dit, comment on dit ça, les opiacés, qui sont des choses dont on a les ordonnances, c'est les gens pour supprimer les douleurs. Intéressant quand même, hein. Les gens sont accros aux médicaments pour supprimer les douleurs, parce que la douleur est si intense. La souffrance est si intense. S'ils ne sont pas accros à ça, ils passent leur temps dans une des plus grandes endroits où tout le monde se réunit. C'est une boutique qui vend les cigarettes électroniques. C'est des fumées qui ont un goût. C'est parfumé. C'est fraise, c'est caramel, c'est différents parfums. Où ils passent beaucoup de temps avec des jeux vidéo. Et il y avait quelqu'un qui témoignait qu'il était endetté parce qu'il avait passé il a dépassé son forfait téléphone ou internet ou je sais pas quoi en téléchargeant les films et en jouant sur les jeux vidéo. Il a acheté une voiture en crédit qu'il n'aurait jamais dû faire parce que maintenant le crédit il ne peut pas le payer. Il a 6 travail, 6 boulots pour essayer, mais c'est des petits boulots. Le journaliste a dit que toute la ville était comme des villes qu'on voit partout aux États-Unis avec les mêmes restaurants fast-food, les mêmes boutiques. C'est un peu comme malheureusement en France maintenant, si on va un peu, on voit ça aussi. Il y a toujours un Buffalo Grill, un Franprix, un Bricorama, un Ikea, je ne sais pas quoi d'autre, un bistrot romain, etc. C'est-à-dire que on essaie de supprimer la diversité et ce qui est singulier dans un endroit, dans une culture, chez quelqu'un, pour que tout soit pareil. Tout le monde parle la même langue, tout le monde mange la même chose, tout le monde porte les mêmes habits, tout le monde regarde les mêmes films, les mêmes, je sais pas, les équipes de football qui sont dans les villes du nord d'Angleterre, qui sont, mais il y a des fanatiques de ces clubs en Asie, dans les bleds en Croatie, enfin je sais pas, partout en Afrique, etc. Pourquoi pas, on peut dire, pourquoi pas, si ce n'est pas au dépend de, au dépend de ce qui est singulier chez soi. Parce que dans tout ça, il s'agit de ça. On est en train de regarder ailleurs et pas chez soi. Et c'est là où ça se passe. C'est là où on va être amené à chercher qui suis-je ? Quelle est la vérité ici ? C'est pas ailleurs. Et tant qu'on est en train de regarder ailleurs, on va se retrouver avec ce qu'on appelle les trois poisons dans le bouddhisme. Je n'utilise pas souvent la terminologie bouddhiste, mais c'est ça. En anglais, on dit greed. Je ne me souviens pas comment on traduit ça en français. Avarice, peut-être.
L'avidité.
Avidité. L'avidité. Voilà. L'avidité, la colère et l'ignorance. Bon, l'ignorance fondamentale, c'est que je crois que je suis séparée de l'autre, qu'il y a un moi qui est meilleur que je ne vois pas l'interconnexion. Et comme je ne vois pas l'interconnexion, je ne vois pas non plus la diversité. Comme je ne me vois pas véritablement, je ne vois pas l'autre véritablement non plus. Et je vais faire ce qu'on fait. On va essayer de faire que tout soit pareil. On va faire comme l'armée américaine qui vient, qui détruit tout et qui essaie de reconstruire quelque chose à son image, qui va essayer d'imposer un système social, commercial, politique, économique, etc., qui ne correspond pas du tout à la situation locale. Et nous, si on ne voit pas notre véritable nature, on fait ça tout le temps. Bien sûr, par une échelle que l'armée américaine. On n'a pas les mêmes moyens, n'est-ce pas? Mais on le fait à notre échelle. On va être avide parce que ce ne sera jamais assez. On va toujours vouloir plus. On va toujours vouloir autre chose. Ce ne sera jamais ce qu'on veut. Parce que on ne sait pas ce qu'on veut. On se trompe sur ce qu'on veut. En fait, ce qu'on cherche, mais on ne voit pas, c'est ça. Qui suis-je ? Qui est celui-là ? Ou celle-là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Si on ne voit pas, on va constamment essayer de remplir cette ignorance fondamentale avec quelque chose. On va essayer de trouver une solution. On ne va plus du tout être dans le questionnement parce que, alors là, si on questionne, ce n'est pas très confortable si on ne sait pas. Et donc, on va remplir. Quelqu'un me disait aujourd'hui, en entretien, parce qu'il travaillait sur un Coran, ce qui est une question, où il cherche une réponse, et ce n'était pas ça ce qu'il a amené. Et il dit, ah, oh, je suis très déçu, j'ai passé toute la semaine dure, je me suis assis beaucoup, j'ai cherché, là, je suis déçu. Donc, j'ai questionné sur ce que c'est les déceptions, parce que les déceptions, c'est quand on a une entente. Donc, c'est comme cette fabuleuse scène dans Proust où le narrateur, il a tellement d'attentes sur la duchesse de Guermantes, sa grande fantasme, et il le voit passer dans l'église, je ne sais pas où, mais loin de lui. Mais c'est la première fois qu'il le voit de près comme ça, et il voit une graine de beauté sur son visage. Et il dit, que ma déception était grande. Les attentes vont amener une déception, comment dire, en proportion. Donc, plus on a des attentes, plus on va avoir des déceptions. J'ai discuté cet après-midi avec cet homme, qu'est-ce que c'est les attentes? Et oui, c'est les attentes de voir quelque chose, de comprendre quelque chose, de savoir quelque chose, d'être quelqu'un, d'arriver quelque part. Tout sauf ce qui s'est passé. S'il peut voir que ce qui s'est passé, s'il peut apprécier ce qui s'est passé dans notre échange et dans sa semaine, à travers tous ses efforts ou tout ce qui s'est passé pour lui pendant une semaine, alors là, il n'y a pas du tout de déception. Il apprécie ce qui est. Et là, il n'y a ni attente, ni déception. Tant qu'on a les attentes, on va avoir de l'avidité. Parce qu'on va vouloir écraser tout le monde sur notre chemin pour arriver. Ou on veut accumuler et on va, plutôt que de donner du travail aux gens qui sont dans mon quartier pour fabriquer quelque chose qui peut nous bénéficier nous tous. Moi, je veux gagner de l'argent. Je veux avoir plus. Et je veux que ce soit peut-être plus vite. Et je veux qu'il y ait plus de choses fabriquées pour que je puisse vendre plus. Et comme ça, moi, je peux avoir plus. Et donc, je vais trouver quelqu'un ailleurs qui peut faire ça plus vite et qui ne va pas avoir les mêmes exigences. Et donc, je peux faire beaucoup plus, vendre ça plus. Je m'en fiche des gens de mon quartier qui se débrouillent. Donc là, parce que c'est l'avarice, ça, c'est l'avidité, ça. C'est aussi l'ignorance. Je ne vois pas les autres. Et colère, bon, on met les cagouilles et on casse. On met des bombes et on expose des gens. On s'engueule avec nos rivales. On va engueuler nos enfants. Enfin, il y a tout un tas de choses. Bon, et la colère, ça peut se traduire de différentes façons. Il y avait un des joueurs de tennis aujourd'hui qui, bon, il est un peu connu pour être comment dire, colérique, mais aussi caractériel, comment on dit ça? Un jeune Australien. C'est la première fois que je le vois en action, donc c'était intéressant de voir, d'observer, parce que c'est vrai ce qu'on raconte sur lui. Même dans son posture, on voyait qu'il était mais en rage, et il perdait. Et il gueulait à quelqu'un de l'autre côté dans les tribunes. Et à un moment, quand il était sur son siège pendant le changement de côté, ils ont quelques minutes sur son siège, il gueulait, il regardait la personne et comme c'était en anglais, j'ai dit australien, donc j'ai compris ce qu'il disait en anglais, il disait « Get out of my box! Get out! Get out of my box! » Les joueurs, ils ont des box. Et ils ont des invités. Souvent, c'est leur famille, leurs amis, leurs entraîneurs, etc. Personne des commentateurs de télé ne comprenait pas du tout qui était dans sa box, qui ne devait pas être. Peut-être c'était son entraîneur, on spéculait, peut-être son entraîneur était en train de lui faire des signes et ça ne marchait pas, et donc il était furieux contre son entraîneur. On ne sait pas, mais le fait est qu'au fur et à mesure qu'il se mettait en colère, au fur et à mesure, ça marchait moins bien. Et donc, comme ça marchait moins bien, il se mettait plus en colère. On voit ça. Souvent, quand on a des engueulades avec quelqu'un, ou, je ne sais pas, les casseurs, là, dans les manifs, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas ça qui va régler la situation. Mais, ça vient d'une position de désespoir, souvent. Ce gars-là, je ne sais pas, joue au tennis, je ne sais pas ce que c'était son désespoir. Son désespoir était qu'il n'arrivait pas à gagner, probablement, je ne sais pas. Je pense que ça vient de plus loin dans son cas. Ça vient de plus loin dans tous nos cas, mais même le terroriste, ça vient d'un désespoir. Évidemment, il ne va pas la raconter comme ça, mais si on étudie ça, il y a toujours une revendication de quelque chose, de ne pas être vu, de ne pas être pris en compte, de ne pas être apprécié, de ne pas être, d'avoir eu le respect, etc. Bon, on peut dire que les Palestiniens ne devraient pas lancer les missiles sur les... Comment dire, les settlers, les Israéliens qui créent des campements, des Israéliens, les colons israéliens. Colons. Ouais. Donc, on peut dire, mais ça ne va pas arranger les choses. Qui lance les missiles sur les colons. Parce que la réplique d'Israël est mille fois plus forte. Ils vont aller raser leur ville. Et puis, il y a une réplique. Et puis, ils vont être écrasés. Et c'est sans cesse.
70 ans.
Oh oui. Depuis quoi, 2000 ans presque, c'est fait. Ça dure. Et on sait que ça vient, si on regarde ça. Une fois, j'ai eu une discussion avec une femme israélienne qui m'a raconté que son fils faisait son service militaire. Et moi, j'étais avec d'autres gens et on disait « Ah, waouh, c'est dur ça, tu dois t'inquiéter, etc. » Elle s'est foutue en colère contre nous en disant « Mais vous comprenez rien. C'est une fierté de faire notre service militaire. Si on n'avait pas notre armée, si tout le monde ne faisait pas ça, on n'existerait plus, notre existence dépend de notre armée, etc. etc. » Ben, c'est leur position. Ils se sont menacés. Donc, ils estiment que c'est ça qu'il faut faire pour se protéger. Les Palestiniens ont une autre position là-dessus. Bref, bon. Je ne vais pas rentrer dans la géopolitique, mais juste pour revenir à notre... Tout ça, c'est une manifestation de quelque chose. Une manifestation de, encore une fois, de ce désarroi qui vient à l'origine de... On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et c'est la seule chose qu'on a à faire ici, sur notre coussin. C'est de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est radical comme démarche. De s'asseoir sur un coussin et ne rien faire et essayer de voir les choses telles qu'elles sont. C'est radical. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Les gens qui le font.
Oui.
car c'est trop radical. Et je pour revenir au match de tennis, souvent les sportifs, on les entend, ils parlent de, en anglais on dit the zone. Ils rentrent dans un, ce qu'ils appellent the zone, un zone où je crois que c'est quelque chose de méditatif, où ils ne sont pas séparés de ce qu'ils font. Ils sont, ce qu'ils font. L'exemple que je donne souvent, c'est il y a quelques années, dans un match final d'un championnat européen, le Champions League, Zinedine Zidane avait donné un marqué un but qui était reconnu par beaucoup de spécialistes, beaucoup de fans, etc. Un des buts les plus extraordinaires de l'histoire. Et on voyait, et moi je l'avais vu à la télé quand ça s'est passé, et ça m'avait frappé, pas encore frappé, par... Il y avait ce qu'on appelle pas de séparation, il y avait no gap. Il était un avec. Et c'est pour ça que tout le monde voit la beauté de la chose. La même chose peut se passer dans un spectacle de danse, dans un juste le visage de quelqu'un qu'on voit dans le métro, on peut être dans un champ de fleurs, c'est à chaque instant ça peut se passer, ça. J'ai dit sportif parce que je parle de tennis, et il parle de cette zone où ils sont un avec, ils sont pas deux, c'est pas moi qui ai la raquette, qui frappe et qui pense qu'il faut aller là. C'est... Je raconte que quand j'ai appris à jouer au tennis, bon, on nous apprend, j'étais petite fille, on nous apprend comment mettre les pieds, comment tenir la raquette. Pour, bon, à mon époque, très lointain, on n'enseignait pas encore à tout le monde le revers à deux mains. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde fait le revers à deux mains. À mon époque, c'était seulement. Donc, il y avait comme ça pour le
droit,
le coup droit, et il y avait comme ça pour le revers. Et il fallait se pencher comme ça, et puis faire comme ci, et comme ça, et puis pour servir, c'est ça, et puis ça. Tout était décortiqué, on répétait les gestes, etc. Mais quand on était sur le court en train de jouer, on n'était pas là à décortiquer tous les mouvements. Si on faisait ça, on n'allait jamais frapper le ballon. Ou quand on veut une voiture, c'est la même chose. Si on est en train de réfléchir à chaque truc, on ne va jamais aller nulle part. La même chose est vraie dans notre vie. Mais on le complique beaucoup plus. Il y a des multitudes de gens qui conduisent une voiture. Ça, je suis toujours émerveillée par ça. Que tout le monde a pu apprendre et puis se lâcher. S'oublier. Et juste faire. Il y a des gens, ils sont là à discuter, à écouter la musique, même maintenant avec le téléphone, quand on entend dans la voiture, ou comme ça, à manger, à tout un tas de choses tout en conduisant. C'est étonnant quand même. Je pense qu'on peut le faire parce qu'on a bien appris. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est bien apprendre. Bien apprendre ce que c'est être un être humain. Qu'est-ce que c'est être un dans ce monde. Si on apprend bien, entre guillemets, apprendre, parce qu'il n'y a rien à apprendre en fait, c'est plutôt de découvrir, ou on dit souvent s'éveiller à, mais Si on fait ça, ben, ça va être comme conduire une voiture ou frapper un balle de tennis. Moi, je ne sais pas si quelqu'un d'autre joue au tennis ici, mais ou ça peut être une basket, ou ça peut être écrire. Bon, écrire ou lire, on fait ça aussi. Hein. Ou même marcher. Ou vélo, faire du vélo. Et quand on reste avec ce qui est, alors là, on ne va pas faire du mal. On ne va pas créer. Bon, c'est pas un autre jargon bouddhiste, c'est le karma. On crée du karma. C'est-à-dire que on va enclencher des conséquences de nos gestes, de nos actions, qui peuvent faire du mal. Un entrepreneur qui décide de supprimer une entreprise pour le mettre ailleurs, alors là, il y a des gens qui vont souffrir. Je peux témoigner d'une façon directe parce que mon emploi va être supprimé. Donc je sais ce que c'est. Et je prends ça comme fascinant, comme expérience. Ça, c'est vraiment, c'est presque un cadeau d'avoir cette expérience. Ça m'amène au plus près de ce qui est notre monde aujourd'hui. Et je peux parler de ça pas du tout d'une façon conceptuelle, mais d'une expérience directe. Tout ce que je vous raconte là, c'est l'expérience. Je ne vais pas vous raconter des bobards que j'ai lu, qu'on m'avait dit. C'est mon expérience. Et donc, ça revient à ça. C'est-à-dire que si on reste avec ce qui est, et ce qui est change tout le temps, on ne va pas faire du mal. Et ultimement, c'est ce qu'on veut. En fait. On ne veut pas faire du mal. On ne sait pas de toute façon si on fait du mal ou non, parce que disons qu'on ne va pas faire du mal supplémentaire, disons. On est obligé de tuer pour vivre. Les cellules doivent mourir pour que d'autres peuvent régénérer. C'est vrai. On est obligé de manger, donc, soit des plantes, soit des animaux, on est obligé de tuer. Il y a des microbes, les choses comme ça, ou les minuscules insectes qu'on ne voit même pas, qu'on écrase tout le temps. Ok. C'est vrai. En même temps, si on reste avec ce qui est, ça va être minimisé. Et c'est ça dont il s'agit, en fait. C'est ça le paix, en fait. Alors, on a 5 minutes. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Si vous avez des questions ou des choses à rebondir ou dire.
Je me demande à quel point. Si c'est pas parfois. Bon aussi d'avoir des aspirations et d'avoir des envies et de les suivre. Parce que quand on dit rester avec ce qui est là, et le côté radical, ça pourrait on pourrait dire bon. Finalement, il ne faut pas que j'essaye de résoudre mes problèmes, il faut que j'accepte que je reste avec ce qui est là. Je me demande si c'est toujours vrai, je ne suis pas sûr.
C'est quand on entend ce que je viens de dire, tout de suite c'est ça qui vient. Et c'est un malentendu car. quand on dit rester avec ce qui est, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les aspirations, les désirs, qu'on veut changer les choses, etc. Ça veut dire simplement de ne pas être figé sur cette aspiration, ce désir, ou si ça ne se passe pas comme on veut, on peut être souple et ajuster. Donc, ah ok, ça, je ne peux pas avoir cette voiture-là, bah, peut-être je peux ajuster et l'autre est plus à mon portée, ou je ne sais pas. Je prends une voiture, mais c'est, ça peut être une aspiration émotionnelle, de l'amour, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou une carrière, je ne sais pas. C'est ça la clé, c'est-à-dire que c'est, et on dit souvent que c'est l'attachement qui est le problème. Donc on dit souvent, et c'est un malentendu aussi, il faut être détaché. Il n'y a pas de question de il faut ou pas faut. C'est que si on est très attaché à quelque chose, si on est attaché à quelque chose, il y a une conséquence. Si notre attachement est moins, il y aura une autre conséquence. Si on n'a pas un attachement à ça, bon, ça c'est, je ne sais pas si c'est possible de ne pas avoir d'attachement. Mais est-ce qu'on peut essayer d'être consciente de nos attachements et laisser un peu, lâcher un peu notre attachement à cet attachement? C'est ça plutôt. C'est souvent un malentendu parce que notre esprit soit ça, soit ça. C'est toujours dans les dualités. Et ce n'est pas, c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est pas ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on appelle le voie du milieu. Ce qui n'est pas le milieu.